Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat. Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission où nous accueillons aujourd'hui Mélanie Villeval, chargée de projet au sein de l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, et Lucie Andivino, chargée d'études à l'Observatoire de la santé Auvergne-Rhône-Alpes. Mélanie, Lucie, bonjour.
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 Vous allez nous parler de la démarche évaluation d'impact sur la santé, EIS, de la politique jeunesse de la ville de Chambéry, pour améliorer la santé et le bien-être des étudiants. Tout d'abord, Mélanie, pouvez-vous nous présenter les intérêts de la démarche EIS ?
Oui, tout à fait. Alors, de manière générale, la santé, notre santé, on sait qu'elle n'est pas seulement le fruit du système de santé de l'endroit dans lequel on vit, mais de manière bien plus large de nos conditions de vie, de notre logement, du quartier dans lequel on habite, de notre éducation, des conditions dans lesquelles on travaille, des liens sociaux que l'on peut avoir, etc. Donc, les politiques au niveau des collectivités notamment vont mener des projets et des politiques sur ces champs-là. Mais finalement, on ne va jamais regarder quels vont être leurs impacts sur la santé, le bien-être de la population. On va regarder quels impacts elles vont avoir au niveau économique, au niveau de l'environnement de plus en plus, mais pas au niveau de la santé de manière globale. Et finalement, c'est un des grands intérêts de l'évaluation d'impact sur la santé, c'est de regarder de manière un peu systématique dans chaque projet qui, à la base, n'a pas l'air de concerner la santé, eh bien, comment il va finalement impacter les déterminants de la santé. Et puis, on va formuler des recommandations pour que ces impacts soient les plus favorables, les plus positifs possibles. Et ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que pour le faire, on va vraiment mettre toutes les personnes concernées autour de la table, que ce soit les agents, les élus des collectivités, les partenaires, les gens qui sont en contact avec la population qui va être impactée par le projet ou la politique. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi qu'on va mettre autour de la table les personnes concernées elles-mêmes ou leurs représentants, et on va essayer de faire des démarches le plus participatives possible. Donc, l'évaluation d'impact sur la santé, c'est une méthode avec des étapes qui ont été éprouvées dans de nombreux pays. En France aussi, il y a de plus en plus de démarches. C'est un processus, mais qui va quand même avoir beaucoup de flexibilité, donc pouvoir s'adapter à beaucoup de contextes différents. C'est une autre chose qui est importante à dire, je pense que c'est aussi une manière de travailler sur d'essayer de réduire les inégalités sociales de santé. On sait qu'elles sont assez importantes, même très importantes dans notre pays, et en fait l'évaluation d'impact sur la santé va non seulement anticiper les impacts d'une politique sur la santé, mais aussi de regarder comment ces impacts vont pouvoir toucher différemment différentes catégories de population, et notamment des populations vulnérables. Donc on va avoir cet intérêt aussi de faire concrètement de la promotion de la santé, c'est-à-dire d'agir sur les environnements de vie, et puis de tenter de réduire les inégalités sociales de santé.
Merci Mélanie de cet éclairage. Je me tourne vers Lucie à présent. Lucie, les EIS sont plus traditionnellement utilisés pour accompagner les démarches d'urbanisme favorables à la santé. Pourquoi dès lors avoir choisi cette démarche dans le cadre d'une politique jeunesse, et quelle plus-value a-t-elle apporté ?
Oui, alors c'est vrai que je pense que c'est un peu historique. Les EIS, c'est une démarche qui est très ancienne dans les pays anglo-saxons. Elle est utilisée depuis plus de 20 ans ailleurs, et en France, elle a eu un peu plus de mal à se mettre en place. Et on va dire qu'il y a 10-15 ans, il y a eu des premières tentatives. Et puis, depuis 5-6 ans, effectivement, elle commence à fleurir un peu partout en France. Et il semblerait que les projets d'urbanisme soient les plus enclins à et plus simples à mettre en place cette démarche, parce qu'on est aussi dans cette volonté de créer de l'urbanisme qui soit plus favorable pour la santé, et particulièrement dans le cadre de projets de rénovation urbain, parce qu'effectivement, on souhaite améliorer les conditions de vie la qualité de vie et le bien-être des habitants dans ces quartiers un petit peu compliqués. Donc, en France, on en a plusieurs qui sont menées et quasiment spécifiquement que sur ces domaines d'urbanisme favorable à la santé. On avait un partenariat fort avec la ville de Chambéry qui souhaitait mettre en place cette politique jeunesse et on a saisi cette opportunité pour faire la proposition de changer un peu de registre et de dire les œillets, ce n'est pas réservé qu'aux projets urbains, on peut aussi les faire dans d'autres domaines parce que c'est une démarche qui peut s'appliquer à n'importe quelle politique ou projet dans la mesure où on va analyser ce projet à travers le prisme de la santé. Dans des pays anglo-saxons, il y a énormément de yes qui sont menées sur des politiques. Dernièrement, justement, il y en a une qui a été menée sur la politique de confinement, par exemple. Donc, c'était une opportunité et la ville de Chambéry était vraiment partante pour ça. Et l'idée de mener une IS sur une politique jeunesse, c'est vraiment de l'analyser à travers le prisme de la santé, parce qu'une politique jeunesse, bon, voilà, ça se veut être une politique avec des axes d'action dans des domaines qui vont essayer de favoriser, prendre en compte les attentes et le bien-être des étudiants. Mais l'intérêt de l'EIS, c'est qu'on va un petit peu déstructurer cette politique, les axes de la politique, et puis on va les redistribuer à travers les déterminants de la santé qu'on aura identifiés. Et là, en l'occurrence, on a analysé quatre grands déterminants qui étaient la disponibilité et l'accès aux soins, parce que dans la politique jeunesse, il y avait cette question du soin pour les étudiants, le potentiel social et l'engagement des étudiants, le travail des étudiants et la mobilité des étudiants. Donc, on a un petit peu désarticulé les axes de la politique pour les redistribuer dans ces différents, à travers ces différents déterminants, pour analyser vraiment à travers le prisme de la santé, dans le terme santé, dans la vision holistique de la santé.
Merci Lucie. Mélanie, de nouveau. Concrètement, quelles sont les réussites de cette démarche?
Alors, je pense qu'une des plus grandes réussites hein, de cette démarche-là, c'est vraiment d'avoir pu mettre les acteurs concernés autour de la table et d'arriver à vraiment mobiliser les acteurs de la ville de Chambéry en lien avec les étudiants finalement. Il y a eu un très grand engagement de nos partenaires sur cette évaluation d'impact de la santé, hein, qui était eh bien les agents du service jeunesse de la ville de Chambéry, et puis également les personnes de l'université, les élus aussi à la ville de Chambéry qui ont été présentes vraiment tout au long de la démarche. Et puis on a eu aussi à chaque réunion et comité de pilotage qu'on a pu organiser, à chaque fois plus de 20 acteurs mobilisés, vraiment tout au long de la démarche, qui a duré quand même un an. Donc, pour moi, c'est une des plus grandes réussites, hein, d'avoir pu faire dialoguer des personnes qui, finalement, n'ont pas toujours l'occasion de se retrouver autour d'une même table. Voilà, notamment, par exemple, que je pense à des représentants étudiants qui ont pu échanger directement avec les élus à la santé de la ville, etc. Donc, vraiment une dynamique très très positive et très 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 intéressante qui a pu se mettre en place. Sur le fond des résultats hein, de la démarche aussi, ça a été moi ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, ça a été de pouvoir mettre la lumière sur certaines populations d'étudiants qui pouvaient être vulnérables et vers qui on pouvait davantage coordonner hein, les actions. Voilà, en mettant vraiment en lumière les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, notamment, par exemple, on a beaucoup parlé des étudiants qu'on appelle free leavers, c'est-à-dire qui viennent étudier mais hors cadre d'échange et qui peuvent se retrouver vraiment en difficulté et avec peu d'accès finalement, d'accessibilité en tout cas aux services proposés par l'université. Donc là, ça a été des échanges et puis des actions envisagées assez intéressantes. Il y a eu beaucoup d'échanges aussi sur la question de la mobilité, de l'accès hein, de l'université, des campus à la ville, etc. pour les étudiants, avec ben voilà, c'est des questions qui sont liées à la topographie du lieu, au contexte particulier de cette université, Et donc c'est bien l'occasion de montrer que si les EIS sont des processus hein, qui sont transférables dans différents endroits, hein, une démarche qui est transférable, en revanche, on ne peut pas faire du copier-coller. Hein. Chaque EIS est vraiment différente et chaque EIS va être fonction d'un contexte et des acteurs locaux, population locale et acteurs locaux. Donc l'occasion de dire ça. Il y a eu aussi beaucoup d'échanges et puis des actions envisagées pour permettre aux étudiants de pouvoir avoir accès à une alimentation favorable à la santé mais accessible financièrement, notamment en soirée sur le campus. Donc voilà, des choses très concrètes finalement et très larges. C'était un peu l'objectif, c'est d'avoir des actions qui concernent un grand nombre de déterminants de la santé. Hein, puisqu'on a, comme Lucie l'a expliqué, on a vraiment balayé l'ensemble des déterminants de la santé pouvait être impacté par cette politique pour les étudiants, mais aussi d'en arriver à des propositions d'action qui sont très concrètes. Donc très concrètement, hein, tous les acteurs autour de la table ont travaillé ensemble pour produire quasiment une centaine de recommandations très concrètes. Et pour l'instant, c'est la ville et l'université qui se sont saisies de ces recommandations pour formuler des propositions d'action qui vont être mises en place dans les prochains mois. Voilà.
Une belle réussite, en effet. Pour terminer, Lucie, quels seraient vos souhaits pour renforcer la vitalité de votre travail commun et améliorer la santé et le bien-être des étudiants à Chambéry?
Alors, comme l'a précisé Mélanie, effectivement, la co-construction des recommandations, de plus d'une centaine de recommandations, a permis de réunir l'ensemble des acteurs à la réflexion. Mais ensuite, seule la ville et l'université se sont emparés de ces recommandations pour essayer de les prioriser et de faire des propositions d'action concrètes. Et aujourd'hui, il serait souhaitable vraiment, de manière à renforcer la vitalité qui existait tout au long de ce travail et qu'on a vu tout au long de cette année de travail, de faire en sorte que les autres acteurs aussi puissent s'approprier et se saisir des résultats pour continuer à mener une réflexion qui soit globale et collective pour améliorer justement la santé et le bien-être des étudiants. Et il faudrait que cette réflexion, elle se fasse sur le long terme, qu'elle devienne pérenne. Et je dirais que ça devrait presque être un automatisme que les acteurs acquièrent pour travailler ensemble, continuer à travailler ensemble, continuer à se poser les bonnes questions ensemble, de façon à ce que ces recommandations puissent avancer, être mises en place, transformées en actions concrètes. Et puis, on a bien vu, on a fait un focus sur les étudiants de Chambéry, mais il y a beaucoup de questions qui concernaient la jeunesse en général. Et donc, il serait souhaitable que les acteurs qu'on a réussi à mettre autour de la table pendant un an et qui ont réussi à travailler ensemble, à échanger, à faire des propositions, puissent continuer dans le temps. Et il y a vraiment ce besoin de pérenniser le travail transversal de l'ensemble des services qui puissent être concernés par une politique, un projet ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est tout l'intérêt de mener une IES, c'est aussi cette réunion des acteurs, leur apprendre à travailler ensemble et leur montrer que c'est possible et que du coup, ils peuvent construire ensemble des choses qui seront effectivement favorables à la santé.
Merci beaucoup Mélanie Vival et Lucie Andivino. Cette émission tire à sa fin. Rappelons que vous êtes Mélanie, chargée de projet au sein de l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, et vous, Lucie, chargée d'études à l'Observatoire de la santé Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réécouter ou télécharger cette émission sur le site radio.cnfpt.fr. Au revoir à toutes et à tous, et à bientôt pour une prochaine émission.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci, au revoir.
Oxygène, les grandes causes nationales qui font débat.